Je respire. Les Chroniques solidaires.
Bonjour à tous et bienvenue sur Chroniques solidaires, un podcast proposé par l'Atelier Déclic en partenariat avec le Centre de la Langue. Aujourd'hui, on reçoit Gabi et Suzanne, respectivement président et directrice du Centre de la Langue. Pour m'aider à la réalisation de cette interview, j'ai à mes côtés Baraka,
bonjour.
Camille,
bonjour.
Et Flore.
Bonjour.
Vous êtes prêtes les filles ?
Oui.
Ok, alors c'est parti. Gabi, Suzanne, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, je suis le président du centre social, à côté d'un bureau et de d'habitants de Saint-Jacques qui se mobilisent autour de ce projet d'animation culturelle et sociale sur la ville de Saint-Jacques.
Merci.
Eh bien, bonjour à tous. Donc, Suzanne Noël, je suis la directrice du Centre de la Langue depuis un an et demi. Et avant, je travaillais dans le tourisme. Donc, mes fonctions sont toutes nouvelles aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous deux. Alors, je vais passer la parole à Flore qui va commencer par une première question.
Alors, pouvez-vous nous présenter le centre social, son histoire, par qui et pourquoi il a été créé ? Merci.
Bien, ben, peut-être, sans être trop long, le centre social a une histoire assez importante sur Saint-Jacques. Les premières prémices du centre social, c'est en 1970, donc ça ne date pas d'hier. C'est les 50 ans, d'ailleurs on prépare la fête des 50 ans du centre social, parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu, les travaux, on n'a pas pu le faire. Hein. En 2020. Donc, ça a d'abord été une création qui a été voulue par la mairie de Saint-Jacques, mais ce n'était pas un centre social au départ. C'était un office d'animation culturelle. C'est-à-dire que ça s'appelait l'Office Jacques Hollandin d'animation, OJA, et qui était d'abord bâti, son lieu d'exercice, c'était dans le quartier du Pigeon Blanc. Ce quartier n'existe pas. Et c'est dans 1992, me semble-t-il, que à la fois cette association de l'OJA, la Fédération des centres sociaux, les habitants de Saint-Jacques et les membres du bureau de Saint-Jacques à l'époque ont choisi d'élargir leur action et de ne pas simplement rester à de l'animation, mais aussi de pouvoir être un centre social.
C'est ça, parce que les missions en fait, du centre social sont différentes d'un centre d'animation. Donc en fait, à partir de 92, hein, c'est bien ça Gabi, le centre de la Lande est né réellement en, fait,
voilà.
En tant que centre social.
En tant que centre social, et c'est effectivement.
Quelles ont été les raisons de cette création et pourquoi vous êtes transformé d'un centre d'animation à un centre social ?
Bien, à l'époque, il y avait aussi la Fédération des centres sociaux qui travaillait. Puis, un élément essentiel un peu, quand même sur Saint-Jacques, c'est que Saint-Jacques s'est agrandi. Hein. Ce quartier là où on est n'existait pas. C'était des fermes, c'était des grands espaces avec aussi du matériel agricole, etc.
En fait, c'est l'évolution de Saint-Jacques.
C'est l'évolution de Saint-Jacques.
Les habitants à ressentir le besoin d'être accompagnés et donc de créer un centre social.
Tout à fait, avec des activités qui pouvaient répondre aux trois grandes valeurs des centres sociaux, qui sont la solidarité, la dignité humaine et la démocratie. Et donc, c'est ça qui a voulu s'incarner. Le centre social a voulu incarner ces valeurs de solidarité qu'on voit pour permettre aux habitants. De pouvoir agir
créer
de manière
des projets comme, voilà, sociale,
comme l'épicerie sociale, comme la boutique vêtements, comme le jardin solidaire,
et comme aussi permettre d'actions qui sont développées au sein du conseil.
Tout à fait.
Sociale. Alors on va passer à la deuxième question, Flore.
Oui. Quelles sont les valeurs et les objectifs du centre de Saint-Jacques ?
Alors t'as un peu déjà répondu, Gabi.
Oui, j'ai déjà oui, mais pour reprendre en fait. Les trois grandes valeurs, hein, c'est celle du centre social de Saint-Jacques, mais c'est aussi les valeurs portées par la fédération, c'est dignité humaine, solidarité et démocratie. Alors, très concrètement, ça veut dire dignité humaine, ça veut dire qu'on s'appuie sur les personnes, enfin, c'est le respect des personnes, le respect de ce qu'elles sont, le respect de leurs paroles. La solidarité, ben, c'est faire en sorte que les gens puissent être solidaires entre eux, s'entraider, mais pas simplement s'entraider entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. Et la solidarité, c'est entre... je veux dire, tout le monde aide les autres. La solidarité, c'est être solidaire les uns et les autres. Il n'y en a pas qui sont plus solidaires que d'autres.
Peu importe leur niveau social.
Peu importe leur niveau social. Et puis, la démocratie, ben, c'est faire en sorte qu'on décide ensemble des choses. Et comme, par exemple... il y a le Noël autrement ce week-end, qui est aussi une décision des habitants de Saint-Jacques de faire un peu un Noël autrement que le Noël commercial. Voilà, c'est ça les valeurs qui s'incarnent très, très concrètement.
Merci.
Donc, à quel moment et pourquoi l'épicerie sociale elle a été créée ?
Alors, elle a été créée, il y a une... je crois que c'est en 97, donc ça fait 25 ans, 26 ans. L'épicerie sociale a été créée parce que on a vu un besoin, ceux qui l'ont créée ont vu un besoin dans la population de Saint-Jacques, besoin de certains habitants qui avaient des difficultés momentanées et qui... il était nécessaire, à ce moment-là, de pouvoir proposer à ses habitants de passer par une épicerie sociale qui était à la fois un moyen aussi de pouvoir passer le cap difficile de cette difficulté, et puis tout en étant aussi invité à rencontrer d'autres pour pouvoir échanger. C'est... On n'est pas seul, quoi.
Ce constat, il a été fait au travers d'une étude ou de témoignage. Comment vous en êtes rendu compte de ce besoin de la population ?
Ben, il faut dire que le centre social a des salariés et des bénévoles et qui sont autant de capteurs de ce qui se vit sur le territoire. C'est-à-dire quand on a des salariés qui sont... investis dans des actions très précises, ils rencontrent les habitants. Quand on a des bénévoles qui sont parents d'élèves, qui sont grands-parents, qui sont parents, eux aussi se rendent compte et ils discutent autour d'eux. Et
c'est les remontées des bénéficiaires, en fait, qui
les remontées
de voilà.
Tout à fait.
Merci Gabi. Alors on va se tourner vers Suzanne pardon Flore.
Je voulais vous demander, en fait, est-ce que vous avez vu à ce moment-là les différences au niveau des classes sociales ? C'est-à-dire que, est-ce qu'au niveau socio-culturel, il y avait plus une catégorie qui était plus touchée par la nécessité qu'une autre, en fait ?
Alors, c'est un peu, peut-être, un peu difficile à dire, mais effectivement, on voit bien que la question des besoins alimentaires... rejoint aussi la situation plus générale d'une précarité. Et effectivement, la précarité des situations, des catégories sociales, sont plus touchées que d'autres. Et c'est pas parce que c'est cette catégorie sociale qui est plus touchée que d'autres, mais il y a un certain nombre de conditions de logement, de langue aussi, hein, d'éducation et de l'apprentissage des langues, qui font qu'il y a un certain nombre de conditions qui se focalisent sur des populations. Et pour nous, il n'y a pas de fatalité. Et donc il faut permettre aussi à ce que les conditions les plus défavorables puissent être prises au sérieux de façon à les dépasser, non pas de manière généreuse, mais de façon à faire que les gens qui sont dans ces situations s'en sortent.
C'est
l'idée de l'épicerie sociale. L'épicerie sociale, c'est vu comme un sas. Ce n'est pas installer les gens dans une situation de dépendance, mais c'est plutôt faire en sorte que ce moment-là difficile soit aussi une occasion de rebondir.
Merci, Gabi. Plus d'autres questions ? Non. Merci Gabi. Du coup, je vais revenir vers toi, Suzanne. Alors, on va parler plus du fonctionnement et de l'organisation concrète de cette épicerie. Je vais passer la parole à Camille.
Bonjour. Comment fonctionne cette épicerie et quels sont les critères d'accès ?
Alors, cette épicerie fonctionne avec l'aide de bénévoles et d'une salariée du centre de la Lande qui s'appelle Malika Moukouche. Et qui a écrit avec les bénévoles et avec les bénéficiaires de l'épicerie comment pourrait fonctionner cette structure et aussi avec les partenaires du territoire pour pouvoir répondre à un double besoin, celui de répondre à une problématique financière à un temps donné et celui de répondre à une problématique de lien social. On vient d'arriver sur le territoire où on vient d'avoir un nouveau logement et on a besoin de créer du lien. Donc c'est dans cette double problématique qui a été créée et auquel est attentive l'épicerie sociale en proposant, comme aujourd'hui, des temps aussi de projets avec l'atelier des clics.
Merci. Et concrètement, c'est quoi les critères d'accès ?
Alors les critères d'accès, déjà on y a un accès pour 3 mois, renouvelable une fois, normalement. Et puis, après, on va prendre en compte le reste à vivre, c'est-à-dire les moyens financiers du ménage, et puis l'accompagnement dont ils auraient besoin aussi. Voilà, pour différents aspects.
Comment sont accompagnés les bénéficiaires et est-ce que le rôle de l'épicerie se limite à l'aide alimentaire ?
Ah, j'y ai déjà un peu répondu, zut. Alors non, la mission de l'épicerie sociale est vraiment double. C'est pouvoir donner un coup de main alimentaire à un moment donné de la vie. Et puis pouvoir donner l'opportunité d'un temps de répit, parce qu'on passe un bon moment autour d'une table avec des brioches et des petits gâteaux, mais aussi un moment de répit intellectuel en échangeant autour de problématiques ou en montant des projets associatifs ou avec des associations. Et un moment aussi où on crée du lien, parce que il y a un mot qui est important quand cette épicerie a été créée, c'est l'idée d'émancipation. Alors ça peut être un grand mot, et c'est un mot que je ne connaissais pas avant, puisque du coup je ne travaillais pas dans un centre social avant. Mais en fait, c'est être très attaché à ce que... l'aide qu'on apporte, elle puisse faire des petits. Alors des petits, des fois, qui paraissent de rien, mais de reconnaître un voisin, de pouvoir se dire, ah bah tiens, je peux compter sur quelqu'un qui est à côté de chez moi. Et puis du coup, de repartir alors avec un colis alimentaire, mais aussi de repartir avec l'appui d'un ami ou de quelqu'un qu'on a rencontré à l'épicerie sociale.
Et des fois, des bonnes rigolades. Enfin, je pense que vous pouvez aussi tous en témoigner autour de la table. C'est plutôt, très convivial comme moment. Merci, Suzanne. Je vais passer la parole à Baraka, qui a également une question pour toi.
Bonjour. Comment est calculée la durée d'accompagnement des personnes bénéficiaires ?
La durée, comment est calculée la durée ? Alors normalement, on est accueilli pour 3 mois à l'épicerie sociale et ça peut être renouvelé une fois. Après, il y a un temps d'arrêt qui peut durer 6 mois et on peut être réaccueilli pendant 3 mois à l'épicerie à nouveau sociale. Voilà.
Du coup, là,
je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Si, je pense que la question était... Il y a eu un débat sur cette question quand on a préparé l'interview. Ce qui est ressorti, c'est que, en gros, la durée d'accompagnement des personnes, elle n'est pas liée à... la durée est fixe, ça veut dire que c'est 6 mois. Si, par exemple, la personne a une problématique qui peut durer au-delà des 6 mois, est-ce qu'il y a possibilité de prolonger cette période ? Où cette limite est fixe et vous ne dérogez pas à la règle des 6 mois.
Alors je crois.
Vous pouvez répondre tous les deux.
Je pense qu'il faut aussi, pour répondre à cette question, il faut situer ce que l'on a dit avant et auquel Suzanne a fait référence tout à l'heure, c'est que le projet, on l'a conduit aussi avec des partenaires. Et donc, l'épicerie sociale ne s'entend que dans le cadre d'un acteur dans un environnement plus large. Et qu'effectivement, cette problématique qui pourrait arriver de ces règles que l'on a pour pas qu'il y ait des coupures comme ça, l'idée, c'est aussi pendant ces 6 mois ou ces 3 mois, pendant la durée d'accompagnement, l'idée, c'est aussi que la personne puisse travailler aussi sur ses accompagnements et puisse être mise en relation aussi avec d'autres. Et c'est tout le travail aussi que fait salarié Malika, qui est professionnelle dans ce domaine-là et qui accompagne aussi les personnes pour faire en sorte qu'elles puissent avoir des contacts avec d'autres organismes. Si c'est un problème de logement, si c'est un problème d'éducation, si c'est un problème lié aux institutions sociales, si c'est un problème lié au travail. Donc, effectivement, la réponse qui va être donnée avec les autres partenaires. Parce qu'au bout de 6 mois, Malika, elle a identifié les questions qu'il faudrait plus approfondir et les réponses qu'il faudrait apporter.
Merci beaucoup.
Est-ce que c'est obligé qu'il soit suivi de 3 mois en défilé ou on peut occuper peut-être un mois, après relâcher un petit peu et continuer un mois, relâcher et continuer, au lieu de faire le 3 mois affilé comme ça?
Alors, je vais avoir une réponse peut-être de Normand, et puis il y a les réponses qu'on peut faire, il y a les réalités aussi. Mais les règles de l'épicerie sociale sont au service d'un projet. Le projet de l'épicerie sociale, c'est d'accompagner les individus dans un moment difficile et de créer du lien. Les règles nous servent à mettre ce projet. En aucun cas, elles viennent nous dicter notre projet. Donc, par rapport à votre question, tout est ce qui est important, c'est le cheminement de la personne. Et si au bout d'un mois, le besoin d'alimentaire est moins important, ben, il n'y a pas de raison que ça continue. Et si par contre, ce besoin alimentaire est réglé, mais qu'il y a besoin d'un accompagnement au niveau de l'emploi, au niveau du logement, ben, ça poursuit avec d'autres partenaires. L'idée, c'est bien ça, c'est que l'épicerie sociale, c'est un dispositif qui permet aussi aux individus de pouvoir cheminer. Donc, les règles sont au service de ce projet.
Enfin, si je résume, tu m'arrêtes si je me trompe, mais l'idée de l'arrêt, c'est de permettre à ce que l'épicerie soit une étape pour chaque bénéficiaire à aller vers autre chose.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Ça ne veut pas dire qu'on est fermé à toute possibilité d'évolution. Ça fait un peu la transition à ce qui arrive, mais ce projet, Malika, qui est responsable de ce dispositif épicerie, elle est très en écoute de ce qui se vit ici. Et si à un moment on jugeait que finalement les règles qu'on s'est imposées ne sont pas adaptées ou ne permettent pas d'accompagner en douceur une fin, plus en douceur en tout cas, elles peuvent être aussi
remises en question.
Voilà.
Donc, en fait, rien n'est figé.
Bon, merci. Auprès de quelle personne ou organisme je peux avoir des informations sur les modalités d'accès à l'épicerie?
Alors, tant pis, Malika, je vous citais souvent, mais Malika fait un travail auprès de nombreux partenaires. Alors, partenaire, ça peut être un grand mot, mais ce sont toutes les structures qui peuvent être associatives, comme le Secours Populaire, ou institutionnels comme le CCAS ou le CEDAS, ou qui peuvent être des enseignants ou des éducateurs de l'école, par exemple, pour transmettre l'info, l'information, et s'assurer que celle-ci est le mieux connue possible. On connaît les limites parce que beaucoup d'informations sont données par papier. Alors, des fois, il y a aussi la barrière de la langue. Donc, on y travaille aussi pour lever cette problématique. Et puis, on s'appuie aussi, quand je dis les éducateurs de scolaires, par exemple. J'étais ce matin avec Françoise Perrin, qui s'occupe de l'école et qui me disait qu'à chaque nouvelle inscription à l'école, elle remet le guide du centre de la Lande et elle explique les différentes missions du centre de la Lande. Donc il y a vraiment un gros travail pour faire connaître sur le terrain. Et puis on s'appuie aussi sur des bénévoles. Alors ça, on les oublie souvent. On compte sur eux pour mettre l'ambiance, accueillir, faire la distribution. Mais si le centre, l'épicerie fonctionne avec des bénévoles, c'est parce que c'est le meilleur moyen de relayer de manière complètement informelle, via le voisinage, dans son quartier, des informations qui ne passeraient pas par du papier, par une mairie ou par un organisme que l'on voit peu ou moins souvent.
L'idée, c'est de tisser un réseau pour que l'information passe.
Oui, tout à fait.
On constate une augmentation de 9% des besoins en aide alimentaire. Est-ce que vous constatez également une augmentation de ces besoins sur le territoire de Saint-Jacques ?
Alors, je vais démarrer, puis Suzanne complétera. Oui, c'est clair qu'on constate une demande plus importante, ou du moins une précarité dans l'alimentation plus forte. Ça, c'est évident. Alors, on le constate à travers les relations. Hein. Je pense que le fait qu'on soit aussi un tissu de bénévoles qui habite la commune fait aussi sentir. Et le fait que les salariés soient dans des dispositifs où les gens passent nous font sentir ça. Et on le faisait. Il y a d'autres indicateurs. Les autres partenaires, le CCAS, le CEDAS, nous renvoient aussi ces éléments. Et puis, il y a les chiffres qui sortent. Mais derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes. Et pour nous, c'est important, derrière ces chiffres-là, ce qui est important, c'est de voir les besoins des hommes et des femmes. Et effectivement, on constate qu'il y a une augmentation. Et là, il y a eu un travail qui est en train de s'engager, qui s'est engagé, qui n'est pas encore complètement conclusif, mais qui s'est engagé avec la ville, avec donc, le CEDAS, le Secours Populaire, le centre social, et pour regarder et envisager d'autres actions pour compléter et pour répondre à ces nouveaux besoins ou à cette augmentation des besoins, pour comment on peut amener d'autres réponses à ça.
Alors sur l'augmentation, oui, le collège, l'école nous ont informé qu'effectivement, de plus en plus de familles ont du mal à payer la cantine le midi. Et voilà, oui, il y a une forte augmentation qui est valable pour l'ensemble de Rennes Métropole, hein, pas que Saint-Jacques. On n'a pas une particularité jacques-hollandine, mais oui, il y a une forte augmentation.
Mais il y a en gros l'augmentation nationale et se remarque aussi au niveau local sur le territoire. Merci.
Disposez-vous des idées ou des projets avant de répondre à ces difficultés?
Maintenant qu'on a évoqué la problématique, il va falloir, en tant que politique et professionnel, avoir des idées pour y répondre.
Oui. Donc on est actuellement en réflexion. Nous, on est assez calés, j'allais dire, le centre social. Sur ce, on a des idées. Donc on peut les dire, et même si elles ne sont pas encore aujourd'hui actées.
On a bien parlé d'idées, on n'a pas parlé d'autres choses.
Mais l'idée, par exemple, de pouvoir compléter l'épicerie sociale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, avec ce temps d'écoute, ce temps d'échange, ce temps convivial, l'idée pourrait être de monter à côté, en complément, de mettre à disposition peut-être des colis alimentaires pour d'autres familles qui ne rentraient pas forcément. C'est compliqué de démultiplier avec les moyens que l'on a, le centre social. On ne peut pas démultiplier sur plusieurs jours ce que l'on fait le vendredi. C'est pas possible. On voit bien aujourd'hui, quand il y a du monde, si on veut que ce soit convivial, il faut que ce soit aussi à portée humaine, à hauteur d'homme. Mais l'idée, effectivement, de pouvoir compléter cette épicerie sociale avec ses doubles entrées, hein, ce que a dit Suzanne, c'est-à-dire que répondre aux besoins alimentaires, mais répondre aux besoins de création de liens, ça pourrait être, effectivement, de proposer, de mettre à disposition des colis alimentaires que le centre social pourrait préparer et puis mettre à disposition.
Merci.
C'est une des idées qui a été émise et qui est mise sur la table.
On va passer à la dernière question, ça se termine doucement, on glisse tranquillement sur la dernière, et c'est Camille qui a la main sur la dernière question.
Alors, avez-vous entendu parler de sécurité sociale alimentaire? Qu'en pensez-vous en tant que citoyen? Et avez-vous des idées d'application en tant qu'élu ou professionnel?
C'est une réponse, enfin c'est une question commune et large, il n'y a pas de. Vous pouvez répondre tous les deux. D'ailleurs, en tant que citoyen, vu que vous êtes a priori citoyen tous les deux.
Apparemment. Et on y est tous.
Oui.
Alors, pour cette question, je trouve que c'est une bonne question. Parce que parler de sécurité sociale alimentaire, c'est renouer avec l'idée de sécurité sociale. Dans la mesure où la sécurité sociale, elle n'est pas née du jour au lendemain, hein, c'est toute l'histoire du 19e siècle et de l'apparition de la classe ouvrière qui a fait que la sécurité sociale est née, et elle est née pour répondre à des besoins qui ont été identifiés à un moment donné, qui étaient la maladie, qui étaient l'usure au travail, et qui étaient la famille, qui étaient les accidents de travail. C'est ces quatre risques, ces quatre qui étaient très importants cours du 19e, 20e et après avec la sécurité sociale, qui ont été au cœur de la création de nos systèmes de sécurité sociale. Et l'idée qui a été trouvée pour prendre en charge ces quatre problématiques, c'est de faire en sorte que les gens puissent se solidariser entre eux. Et on a solidarisé, on paye des cotisations à chacun, et on a solidarisé les gens entre eux pour dire, avec ces cotisations, on va répondre en question de maladies, d'accidents de travail, d'usure au travail par la retraite, etc. Les familles.
Et aujourd'hui, les questions alimentaires et la question de santé n'est pas si éloignée que ça.
Alors, c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, la question de l'alimentation, et avec tout ce qui a été travaillé autour du lien santé, alimentation, tout ce qui est la prévention, l'idée de mettre ces besoins alimentaires dans l'idée d'une sécurité sociale est intéressante. Après, c'est la mise en œuvre. Comment mettre en œuvre ce dispositif? Je crois que c'est un peu comme dans d'autres domaines. C'est les expériences. C'est à partir du terrain, à partir des expériences qui sont menées, d'une certaine manière.
Vous ne croyez pas qu'il doit y avoir une volonté politique quand même de mise en place?
Oui, mais les volontés politiques... Alors là, je m'appelle comme citoyen, mais les volontés politiques n'ont de réponse que si elles sont portées par les citoyens et par les expériences. Il n'y aurait jamais eu de sécurité sociale s'il n'y avait pas eu les mutuelles, s'il n'y avait pas eu des bagarres, s'il n'y avait pas eu des gens qui sont même morts pour ça, dans des luttes syndicales très importantes. Donc, moi, je ne crois pas à l'idée politique qui naît et puis qui va imposer. Par contre, d'une certaine manière, le centre social, l'épicerie sociale du centre de la langue est un début de sécurité sociale alimentaire. Pourquoi? Suzanne l'a dit, on ne fonctionnerait pas, l'épicerie sociale ne fonctionnerait pas aujourd'hui s'il n'y avait pas un réseau de bénévoles. Si toutes les fonctions qu'il faut faire dans une épicerie sociale, aller chercher l'alimentation, faire les stocks, servir. S'il fallait salarier, par exemple, ça ne serait pas possible, donc ça ne se ferait pas. Donc, on a trouvé un autre moyen, et on a trouvé des gens qui donnent de leur temps. Donc, c'est déjà un moyen de solidariser les gens. Ils donnent de leur temps pour faire en sorte que cette sécurité alimentaire vive.
Tu as une réaction, toi, Suzanne? Peut-être un peu moins longue.
Non, j'avais jamais entendu parler de sécurité sociale alimentaire. L'idée que l'épicerie solidaire ou sociale soit une forme, c'est très certainement le cas, parce qu'effectivement, ça repasse sur la base des citoyens, mais aussi sur la base d'un financement qui finance le poste de Malika, qui est la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale, et qui est un des piliers de la sécurité sociale tout court. Donc, en cela, on est la boucle est bouclée, voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est parfait, hein, attention, hein, je ne dis pas du tout ça. Mais voilà, mais sinon, c'est vrai que je n'avais jamais entendu parler de cette idée, là, de sécurité sociale alimentaire.
Merci à tous. L'interview, enfin, l'échange se termine. Je vais vous tous vous remercier. Ah, Suzanne, non, l'échange ne se termine pas. Suzanne.
Il y a une question, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Comment.
Suzanne est frustrée parce qu'elle n'a pas pu répondre complètement à une question.
Auprès de quelle personne ou organisme je peux avoir des informations des modalités d'accès à l'épicerie? C'est la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Et j'ai oublié les gens qui sont autour de la table. Alors, c'est pas beau parce que vous êtes tous là. Et en fait, on a tous, en tant que membres de l'épicerie sociale, bénévoles ou ici présents autour de la table, en fait, on est tous chargés de communiquer et de faire connaître l'épicerie sociale. Voilà.
Merci. Donc, en gros, potentiellement, si vous rencontrez au coin de la rue un bénéficiaire de l'épicerie sociale, il pourra vous en parler et vous indiquer toutes les modalités pour vous informer et y avoir accès. C'est bien ça?
C'est cela.
Donc, je vous remercie bien. Merci les filles, vous avez été super. Merci Camille, merci Baraka. Alors, Flore est partie. Elle est partie à l'épicerie, effectivement.
On va en avoir.
Merci à tous et puis bah une prochaine fois pour les chroniques solidaires. Au revoir.
Je respire. Les chroniques solidaires.